13h, 14h le samedi, les éclaireurs, Fabienne Van de Merch.
Bonjour et bienvenue dans les éclaireurs. Soigne ton corps, guéris ton esprit. Voilà une formule qui illustre parfaitement les activités et les recherches de nos deux invités d'aujourd'hui. L'un est kiné et ses travaux portent sur la mise au point de prototypes d'appareils utiles dans la pratique des kinés et notamment le système ancestral des ventouses dans le traitement des maux de dos. Notre autre invité est neurologue et ses recherches portent sur une approche alternative du soin à apporter aux patients atteints de maladies neurologiques chroniques, en l'occurrence une thérapie par l'exercice physique, ludique et collectif, et notamment par la danse pour les patients atteints de Parkinson. Et ce qui unit nos deux chercheurs, c'est une ASBL Fit Your Mind qui concrétise et rend accessibles les résultats de leurs travaux. Mes invités s'appellent Gauthier Dorban et Olivier Bouquiot.
Les éclaireurs sur la première.
Et dans les éclaireurs, j'accueille comme promis Gauthier Dorban qui coordonne la recherche de la section kinésithérapie à la Haute École Robert Schumann. Bonjour Monsieur Dorban, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, vous allez nous parler des projets de recherche, bien sûr, dans lesquels vous êtes impliqué. Il y a deux axes au moins. Il y a un axe de recherche qui concerne l'intérêt des activités physiques dans le traitement de la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. C'est aussi dans le cadre d'une ASBL Fit Your Mind, dont on reparlera plus en détail. Et puis, autre axe de recherche, c'est avec les ingénieurs du département technique de la Haute École Robert Schumann. Vous travaillez à la mise au point de prototypes d'appareils, d'appareillages utiles dans la pratique des kinés et notamment le système des ventouses dont on parlera également. Donc on va beaucoup évoquer la kinésithérapie, bien entendu, on l'a compris, mais en réalité vous n'êtes pas kiné vous-même.
C'est bien ça, je ne suis pas kiné.
Alors, vous avez une formation en sciences biomédicales et pharmaceutiques avec une spécialisation en immunologie et neurologie, un doctorat à l'Université de Liège, un post-doc à Liège et à Luxembourg. Et donc, tout ça pour en arriver à vous demander où est le lien entre cette formation que vous avez et la spécialisation et puis vos recherches actuelles en kiné.
Eh bien, il se fait que je donne une grande partie des cours dans la section kinésithérapie qui ont trait à tout ce qui est recherche dans le domaine médical, paramédical. Donc, en fonction des choix des étudiants, on va dire, eh bien, on essaye de les guider dans l'une ou l'autre direction. Et en fait, il se fait que pour les travaux de fin d'études, donc le mémoire qu'on leur demande de faire en kiné, on souhaite qu'ils produisent un travail original, donc original. Pas dans le sens exotique, mais simplement des choses qui n'ont pas encore été faites. Ben voilà, il y en a qui sont intéressés plus par la neurologie, en tout cas les pathologies neurodégénératives, et d'autres sont intéressés par des choses plus techniques. Et il faut bien souligner que dans les étudiants qu'on a en kiné, il y en a quand même quelques-uns qui ont un bagage précédent et donc qui profitent de leur passage en kiné pour exploiter également leurs autres compétences.
Donc ça veut dire, Gauthier Dorban, que la coordination de la recherche, juste un mot là-dessus, pour cette section kiné de la Haute École, ça consiste à donner des impulsions, à trouver, j'imagine, des budgets aussi, à encadrer les futurs kinés et les chercheurs. C'est ça votre job, on peut dire en résumé ?
Oui, donc c'est beaucoup de l'encadrement des étudiants. Alors il y a également la mise au point de projets et de chercher des budgets, en sachant que à la Haute École Robert Schumann, il y a le centre Resort qui finance une partie des projets quand ils estiment que ça vaut le coup. C'est une aide financière interne à la Haute École qui permet de développer des projets.
Pas de recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée.
La plupart du temps, c'est de la recherche appliquée, effectivement.
Alors précisément, Gauthier Dorban, l'un des projets, et on va aller un peu plus dans le concret bien sûr, l'un des projets sur lequel vous travaillez a été initié par deux étudiantes en kiné. Il concerne d'abord globalement un mal qui touche beaucoup de gens, à savoir la lombalgie, le mal de dos, et vous vous intéressez en particulier à la thérapie ventouse. Alors c'est une thérapie ancestrale, elle existe depuis des milliers d'années. Elle fonctionne comment cette thérapie ? Pas précisément dans le cadre de ce que l'on va développer dans votre recherche, mais est-ce qu'on la pratique beaucoup ? Est-ce que les kinés la pratiquent beaucoup déjà en temps normal ?
Alors effectivement, c'est une pratique qui est très populaire, qui est utilisée depuis très longtemps. C'est populaire, mais parfois ça peut interpeller. Je ne sais pas si vous vous rappelez aux Jeux Olympiques de Rio, il y a Michael Phelps qui est arrivé dans la piscine olympique il y a un jour et il avait des traces de ventouses un peu partout sur le corps et pas mal de commentateurs étaient interloqués et se demandaient ce que c'était. Chez les sportifs, c'est beaucoup utilisé et en général dans le traitement des syndromes douloureux, c'est assez populaire. Et alors, les étudiantes, effectivement, se sont intéressées à un domaine particulier qui est la lombalgie. Et en fait, elles se sont posées plusieurs questions, au départ. Elles ont évidemment lu la littérature. Elles ont vu que dans la littérature, il y avait, une étude intéressante qui montrait que dans le cadre de la lombalgie chronique, l'utilisation des ventouses était plus efficace que des anti-inflammatoires. Par contre, il y a plusieurs sortes qui existent, plusieurs façons de les utiliser. Il y a beaucoup de possibilités et ça les dérangeait un petit peu. D'autant plus que dans la littérature aussi, on décrit qu'il y a un effet des ventouses à partir d'une certaine dépression, mais qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans la dépression, sinon c'est contre-productif. Et donc, elles se sont dit, ouais, mais comment va-t-on faire pour être précise dans le protocole qu'on met en place et pour maîtriser la fameuse dépression? Et donc, elles sont parties sur le prototypage d'un appareil qui répondait aux différentes caractéristiques qu'elles cherchaient, donc contrôler et déterminer une dépression efficace, et surtout la maintenir pendant le temps voulu, puisque en fonction de l'élasticité de la peau du patient, on ne peut pas procéder d'une seule façon pour obtenir un résultat efficace.
Alors, Gauthier Dorban, je reviens sur plusieurs choses que vous avez dites. D'abord, vous avez parlé de lombalgie chronique. On parle de lombalgie chronique dès lors que la douleur se prolonge au-delà de 3 mois. Hein. On est d'accord?
C'est bien ça.
Et d'autre
C'est la
part,
vie.
on a bien précisé que les maux de dos, ça touche beaucoup de monde. 23% de la population générale, des maux de dos qui sont provoqués par toute une série de raisons, mauvaise position, un comportement inadéquat, aussi on porte des choses, des charges trop lourdes, on plie pas ses genoux, enfin bon, tout ce qu'on sait mais qu'on fait quand même et donc du coup on a mal au dos. Parenthèse, le télétravail n'a sans doute pas, pour certains, arrangé les choses, hein, parce que les sièges de la maison ne sont pas adaptés.
Voilà, c'est assez rare d'avoir des sièges ergonomiques et en plus, il faut savoir les utiliser correctement. La position assise, c'est pas du tout idéal pour le dos. D'autant plus qu'une fois qu'on est assis, on n'est pas en mouvement et ne pas faire travailler les muscles du dos, ça participe grandement aux douleurs.
Alors, on a cité la prévalence dans la population générale, mais chez les chauffeurs routiers auxquels se sont intéressées vos étudiantes et ce projet de recherche, c'est 3 fois plus, avec 74% de personnes qui souffrent du dos. Là, en cause, forcément, c'est la position assise pendant des longues heures dans les camions et les vibrations de la route qui n'arrangent rien non plus.
C'est une profession où effectivement il y a énormément de gens qui souffrent de lombalgie. C'était aussi une des raisons pour laquelle elle voulait cibler cette population-là.
Voilà pourquoi cette étude et cette recherche que vous avez encadrée portent sur l'influence de la dépression à l'intérieur des ventouses, sur la douleur du dos chez les chauffeurs routiers. Alors, comment avez-vous procédé? Il a fallu d'abord recruter, j'imagine, des sujets. Il a fallu recruter des chauffeurs qui souffrent de lombalgie chronique. Vous avez choisi 18 personnes réparties en 3 groupes. Comment ça s'est passé?
Ils ont été séparés en 3 groupes, puisque comme elle voulait déterminer la dépression efficace, ou en tout cas la plus efficace, elles ont choisi 3 dépressions particulières et donc elles ont scindé les chauffeurs routiers en 3 groupes.
Voilà, donc chaque groupe a été traité par ventouse une fois par semaine pendant 5 semaines, avec un temps d'aspiration qui était le même, hein, 5 minutes, mais la
C'est
dépression
ça.
appliquée était différente d'un groupe à l'autre, de très faible à quand même assez élevé.
Voilà, le but, c'était que le paramétrage soit absolument identique dans les 3 groupes, sauf en ce qui concerne la dépression. Et effectivement, le groupe numéro 1 avait une dépression qui était la limite efficace de ce qui est décrit dans la littérature. Et par contre, le troisième groupe, donc celui qui avait la dépression la plus forte, on n'était pas à la limite de ce qui est conseillé, mais on était tout proche.
Au final, ce sont les intensités les plus élevées qui ont apporté la meilleure amélioration à court terme. Mais qu'est-ce qu'on a comme recul par rapport à cette expérience et à ce projet?
Alors, il faut quand même signaler qu'elles ont amené deux nouveautés. D'une part, elles ont amené un appareil qui n'existait pas, qui permettait d'être très précis dans le réglage de la dépression des ventouses. Et d'autre part, elles se sont intéressées à la population des chauffeurs routiers. Mais on est parti sur une étude plutôt pilote où on a peu d'effectifs, que 6 personnes par groupe. On ne peut pas tirer des conclusions qui sont très robustes. Les résultats ne sont pas tout à fait clairs. On ne peut pas dire, voilà, à 200, il n'y a rien. Par contre, à 400, c'est super, tout fonctionne. L'expérience sera très probablement à rééditer avec des effectifs plus importants.
Voilà, alors outre ce système des ventouses, Gauthier Dorban, vous travaillez aussi sur d'autres prototypes d'appareils qui pourraient donc être utiles dans la pratique des kinés. Et je précise qu'ici, dans le cas des ventouses, l'installation ne serait pas compliquée ni monumentale pour les cabinets et facilement transportable pour les kinés. Alors, un des prototypes et un des appareils sur lesquels vous travaillez, c'est le dynamomètre numérique portatif. De quoi s'agit-il?
De nouveau, c'est parti d'un travail d'un étudiant. Les kinés font très régulièrement en cabinet du bilan musculaire, donc c'est un travail qui est fait en routine. Pour réaliser ce travail-là, il y a différents outils qui existent. Donc, on peut faire une évaluation qui est qualitative. La fiabilité n'est pas très bonne. On peut faire une évaluation avec un appareil qu'on appelle d'isocinétisme, qui lui est très fiable, très bien, mais qui est tout à fait intransportable et qui coûte extrêmement cher. Et les autres solutions restantes, c'est l'utilisation de dynamomètres. Donc ça, il y en a déjà sur le marché. Maintenant, les dynamomètres qui existent sur le marché ont un certain nombre de qualités, ont un certain nombre de défauts aussi. Et cet étudiant était un petit peu frustré puisque il voulait faire certains tests sur les patients qui n'étaient pas accessibles avec un dynamomètre classique. Et donc, il a réfléchi. Et il s'est dit, un appareil qu'on trouve dans un cabinet de kiné de façon quasiment systématique et même dans chaque maison, c'est un pèse-personne qui fonctionne selon le principe du dynamomètre. Et donc il a imaginé un dispositif mécanique utilisant le pèse-personne pour faire le bilan musculaire des patients. L'idée était très bonne. Maintenant, le dispositif qu'il a mis en place, c'était à la limite du transportable et c'était quand même beaucoup de bricolage. On s'est dit que ça méritait quand même d'être poursuivi. Et comme à la haute école, on a un département technique avec une section d'ingénieurs industriels spécialisés en mécatronique, eh bien, on s'est tourné vers eux avec une espèce de cahier des charges en leur disant, voilà, on souhaiterait développer un outil qui peut répondre à telle et telle fonctionnalité. Et donc, nos collègues et leurs étudiants ont travaillé sur le projet. Et à l'issue d'un premier travail d'étudiant, ils avaient construit la version 1 du dynamomètre, donc qui est effectivement un dynamomètre connecté et portatif qu'on peut mettre dans une petite valise et qui permet de faire du bilan musculaire, donc de tester la force musculaire à la fois en traction et en compression. Quasiment tous les groupes musculaires sont accessibles, donc ça permet de faire un travail global sur le patient.
Donc tous les groupes musculaires peuvent être testés et l'instrument qui a été mis au point a l'avantage d'être portatif. Donc il est utilisable évidemment en cabinet, mais aussi en séance à domicile pour les kinés qui souhaiteraient s'en servir. C'est bien ça.
Voilà, tout à fait. Donc il faut simplement le dispositif, donc le dynamomètre et un ordinateur. Puisqu'il y a une interface qui permet de faire l'enregistrement des prises de mesure, en fait. Donc, ça, c'est un des gros avantages par rapport à ce qui est sur le marché actuellement, c'est que on a vraiment toute une acquisition en direct des prises de mesure, donc pas uniquement les forces maximales.
Voilà, et ça, c'est un projet, on va dire, qui avance très très bien. On est d'ailleurs au-delà du projet, puisque on est dans la concrétisation. Vous nous avez parlé du prototype 1, mais après les modifications qui s'imposaient suite aux mises à l'épreuve en conditions réelles, le prototype 2 est en cours d'élaboration. Vous avez déjà reçu les premières commandes.
En fait, on a reçu un premier prototype. Évidemment, il a été testé par les étudiants, par les collègues de la section kiné. Donc on est revenu vers nos collègues ingénieurs en disant, voilà, c'est vraiment très bien. Maintenant, on aimerait améliorer un petit peu l'ergonomie, développer d'autres fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez faire ces mises au point? Donc ils sont en train de finaliser. Il y a un étudiant qui travaille comme jobiste sur le projet avec nos collègues ingénieurs. Et donc là, on va dire, c'est en cours. Néanmoins, on a déjà diffusé un petit peu l'information autour de nous. Au moment où on avait le premier prototype, et effectivement, il y a des gens qui ont déjà marqué leur intérêt si on était disposés à vendre le
poursuivre.
produit. Maintenant, on est encore clairement en phase de développement.
Alors, Gauthier Dorban, je l'ai dit, il y a un autre axe de recherche qui vous intéresse particulièrement, c'est l'effet de l'activité physique sur des pathologies comme la sclérose en plaques et Parkinson. C'est sans doute ici, Gauthier, que l'on peut vraiment faire le lien avec votre formation que je citais en début, formation en sciences biomédicales et pharmaceutiques, et cette spécialité en immunologie et neurologie. Là, les choses se rejoignent, on va dire.
Oui, effectivement, c'est plus proche de ma formation initiale. Depuis quelques années maintenant, bientôt 10 ans, on s'intéresse à l'intérêt de l'activité physique dans les pathologies neurologiques chroniques, en particulier la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Alors maintenant, c'est un petit peu plus populaire l'activité physique pour les patients neurologiques. Il faut savoir que ça n'était pas du tout il y a 10-20 ans. On disait plutôt aux patients, reposez-vous, ne faites pas d'efforts. Et on s'est rendu compte que, pour prendre l'exemple des patients sclérose en plaques, le fait de ne pas avoir d'activité physique, eh bien, ça accélérait leur déconditionnement physique et que les symptômes de fatigue, de dépression, etc. étaient accentués du fait de cette sédentarité totale qui leur était proposée. Donc maintenant, au contraire, il y a énormément de littérature qui montre que proposer une activité physique régulière et constante aux patients neurologiques, ça permettait, si pas d'améliorer, en tout cas de maintenir un niveau fonctionnel intéressant.
Alors, ce sont des activités physiques adaptées, hein, évidemment, aux soucis de chacun, encadrées par des professionnels. Il faut que ce soit des kinés ou des danseurs. Donc, ce n'est pas à proprement parler un traitement, comme peut l'être une séance de soins ou de rééducation. C'est davantage le principe d'un atelier.
Pour l'instant, ce n'est pas encore validé comme traitement, en tout cas en Belgique. Il faut savoir que dans d'autres pays, c'est déjà validé comme traitement l'activité physique. Donc on va dire un kiné peut très bien organiser une séance collective ou personnelle simplement d'activité physique. Enfin, quand je dis simplement, c'est pas si simple. D'activité physique adaptée avec les patients. Donc ici, on parle bien d'activité physique. Hein. C'est pas l'objectif n'est pas de faire des marathoniens avec les patients neurologiques.
Oui,
c'est vraiment de faire du sport. Et effectivement... Pour l'instant, en tout cas en fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment du traitement de complément.
Ça veut dire, Gauthier Dorban, que comme ce n'est pas officiellement un traitement, la personne qui souffre d'une affection neurologique doit décider elle-même de participer à ces ateliers. Elle ne doit pas passer, je dirais, par une prescription médicale.
Effectivement, c'est sur base volontaire. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de neurologues qui préconisent à leurs patients, en plus... de suivre un traitement classique, également de participer à des activités physiques encadrées par, comme vous l'avez dit, des gens qui ont fait une formation spécifique. Hein. Donc, c'est soit des kinés, des médecins.
Des danseurs.
Des profs d'éducation physique qui ont fait. Ou des danseurs, oui, et qui ont une formation en physical thérapie ou en danse adaptée pour les patients parkinsoniens, puisque vous évoquez la danse, effectivement. Les danseurs vont suivre une formation tout à fait spécifique pour prendre en charge les patients parkinsoniens.
Donc, Gauthier Dorban, il y a des ateliers de marche sportive en extérieur, marche nordique adaptée, ateliers de danse à destination de personnes souffrant de Parkinson. Ça veut dire que lors des activités, on ne mélange pas les pathologies?
Alors, pour les danseurs, c'est spécifiquement réservé aux parkinsoniens. Par contre, pour les autres activités, on peut faire des groupes mixtes, je veux dire, avec d'autres pathologies. Ce qui importe, c'est que chacun puisse suivre la séance de façon adéquate.
Alors, on l'a dit, sont impliqués dans cet axe de recherche à la fois le Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fréture, l'ASBL Fit Your Mind, l'ULG et votre section de recherche kiné de la Haute École Robert Schumann. On imagine bien que chacun et chacune de ces institutions a sa partie de prédilection. Quelle est la vôtre alors ?
Les pathologies neurologiques chroniques, c'est un domaine qui intéresse beaucoup les étudiants en général, en particulier la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, puisqu'il y a quand même un pourcentage non négligeable de la population qui est touchée par ces pathologies-là. Et donc les étudiants sont demandeurs pour pouvoir réaliser des études cliniques ou des essais thérapeutiques sur ce type de patients. Et donc, au CNRF, la prise en charge est spécialisée dans ce type de patients. Donc, on va dire, ils ont des patients qui sont pris en charge et ils ont accepté plusieurs fois de prendre nos étudiants sous leur aile pour pouvoir réaliser leurs travaux. Donc, on va dire, à l'école, ce qu'on fait, c'est que, en concertation avec le CNRF, on met en place un protocole que chaque intervenant estime faisable et adéquat. Et ensuite, c'est les étudiants qui sont chargés de prendre en charge les patients et de réaliser toute une série de mesures avec le consentement des patients, évidemment, et de tirer des conclusions par la suite si le traitement s'avère intéressant.
Grand merci Gauthier Dorban de nous avoir expliqué les axes de vos recherches. Alors vous avez évoqué l'ASBL Fit Your Mind. Nous allons en parler maintenant avec le neurologue Olivier Bouquiot. Et puisqu'il sera beaucoup question de danse, voici les Bee Gees. You should be dancing. C'était les Bee Gees.
La première, les éclaireurs, Fabienne Vandemersch.
Et comme promis, j'accueille à présent Olivier Bouquiot. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans les éclaireurs.
Bonjour madame.
Alors vous êtes neurologue, vous menez des recherches sur l'intérêt des activités physiques dans le traitement des patients atteints de maladies neurologiques chroniques. Vous êtes le fondateur de l'ASBL Fit Your Mind et de Kinésiphilia, un projet au cœur duquel se trouve la pratique de la danse, d'où la musique que nous venons d'entendre. Pratique de la danse pour les patients atteints de Parkinson. On parlera de tout ceci bien entendu dans un instant en détail. Mais une précision peut-être de base d'abord, Olivier Bouquiot, quand on parle de maladies neurologiques chroniques, de quelle maladie s'agit-il exactement ?
Donc moi, je me suis surtout intéressé aux maladies un peu neurodégénératives, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, mais aussi le vieillissement cérébral normal, voire accéléré, Ce sont des maladies neurodégénératives dont on ne se débarrasse jamais, pour lesquelles, je pense qu'il y a quelques années, on avait oublié que la thérapie par l'activité physique était un vrai traitement efficace.
Mmh. Alors, on sait que, d'une façon générale, faire de l'exercice physique, c'est bon pour tout, mais ce bénéfice est particulièrement vrai pour les personnes et les patients atteints de maladies neurologiques chroniques. Pourquoi, en fait ?
Alors, on le sait depuis longtemps, en effet, et c'est une thérapie qui est utilisée dans les maladies notamment vasculaires, mais il y a encore un peu plus d'une dizaine d'années, en Belgique notamment, dans des maladies neurodégénératives, et en particulier la sclérose en plaques, on avait plutôt tendance à dire aux patients d'épargner, de ne pas faire trop d'efforts, de ne pas se fatiguer, de respecter du repos. En fait, on s'est rendu compte que, bien au contraire, c'était l'inverse qu'il fallait proposer, que finalement l'activité physique avait une action neuroprotectrice comme aucun autre traitement et qu'il fallait l'encourager, la développer, la codifier, la cadrer dans ces maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, mais Parkinson également. La maladie de Parkinson, l'activité physique est encore plus efficace et il semblerait qu'elle ait même un effet préventif et non seulement curatif. Donc c'est vraiment un atout thérapeutique qu'il faut utiliser, qu'on n'utilisait pas assez en Belgique en tout cas.
Alors on le disait dans le titre de notre émission Les Éclaireurs aujourd'hui, soigne ton corps, guéris ton esprit. Cette interaction permanente entre le corps et l'esprit, elle est prise en compte en réalité depuis des siècles dans d'autres cultures, mais est-ce que nos sociétés, Olivier Bouquiot, n'ont pas une tendance finalement à conserver une conception assez compartimentée des choses, médicaments d'une part pour le corps, médicaments pour l'esprit de l'autre?
Alors tout à fait, vous me sortez les mots de la bouche. On a voulu insister sur le lien corps et esprit, c'est l'adage de notre ASBL. Et on est dans une société, en Belgique c'est vrai, où le lobby pharmaceutique est très important et où classiquement, sur le plan culturel, le patient vient chercher un remède chez son médecin, qui est souvent un remède qui appartient à la pharmacopée et ne va pas chercher dans ses ressources personnelles et dans peut-être des traitements alternatifs qu'il peut pratiquer en autonomie ou de façon collective et qui, à la limite, ont en effet tout aussi intéressant.
Sur la thérapie par l'exercice, vous parlez donc d'une approche alternative du soin à proposer aux patients. Maintenant, quand on parle ou quand on dit approche alternative, ça peut laisser sous-entendre qu'elle remplacerait des approches ou des traitements plus traditionnels. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'elle est complémentaire ou est-ce qu'elle est complémentaire mais indispensable ?
Non, elle est tout à fait complémentaire. Et elle ne remplace pas le médicament, mais elle apporte autre chose, et notamment par rapport à sa capacité de neuroprotection. Mais elle a aussi d'autres vertus, l'activité physique, selon la façon dont elle est pratiquée, si elle est collective, si elle est ludique, elle permet aux patients d'oublier sa maladie, d'avoir une vision positive de celle-ci, de s'engager personnellement, de reprendre un peu le contrôle de son soin. Donc elle a d'autres vertus aussi, mais elle est complémentaire.
Alors, cet intérêt, Olivier Bouquiot, de la thérapie par l'exercice pour ces patients, comment vous est-il apparu ? Autrement dit, comment l'avez-vous découvert et comment avez-vous décidé alors de vous y plonger dans vos recherches ?
C'est quelque chose qu'on ne m'a pas du tout appris historiquement à l'université, mais de façon implicite, au début des années 2000, j'avais déjà le sentiment que cette approche avait des vertus thérapeutiques, notamment chez les malades chroniques neurologiques. Et chez les malades chroniques neurologiques, une fois le traitement médicamenteux optimalisé, une fois l'aspect rééducatif optimalisé, eh bien, on a toujours envie de proposer plus pour améliorer leur capacité, leur qualité de vie, et aussi les aider à mieux vivre avec une maladie chronique. C'est comme ça que petit à petit je suis venu à l'idée de l'activité physique adaptée qui en fait existe dans d'autres pays depuis très longtemps et est pratiquée notamment au Canada. C'est là que le concept a été développé, je pense depuis les années 80.
Alors, vous l'aviez dit, vous vous préoccupez à la fois des patients Parkinson, mais aussi de sclérose en plaques. Je voudrais qu'on en dise un mot, Olivier Bouquiot, parce que le catalyseur a été littéralement un reportage que vous avez vu sur des enfants atteints de cancer qui gravissaient les plus beaux sommets du monde. Et vous avez proposé une expédition similaire à des patients avec une sclérose en plaques.
Oui. Exact. Donc ça, c'est une image forte que j'avais en tête depuis justement début des années 2000. En collaboration avec la Haute École Robert Schumann, Schumann et Gauthier Lurban en particulier, on a d'abord mis sur pied des petits groupes collectifs d'activités physiques adaptées dans certaines pathologies. On a notamment commencé avec les patients avec une sclérose en plaques. Mmh. Et c'était des kinés qui terminaient leur master, qui encadraient ces groupes et qui faisaient un travail d'évaluation de ce que l'activité physique adaptée leur apportait. Ces travaux ont tous amené des résultats positifs. Il y en a certains qui ont été d'ailleurs publiés dans des revues internationales. Mmh. Et la difficulté auquel on a été confronté, c'est alors de proposer cette offre thérapeutique un peu nouvelle pour le sud du pays. Et l'idée alors était de monter une expédition, de monter un événement à partir duquel on pourrait communiquer, faire des conférences, etc. Et l'idée du film était aussi importante pour justement aider à la communication. Mm-hmm. Et donc on a eu ce projet un peu fou en 2011 de préparer physiquement, selon les concepts de l'APA, une douzaine de médecins sclérose en plaques pour gravir un sommet. Donc pendant 6 mois, on les a préparés physiquement à raison de 3 séances d'entraînement semaine. Et puis on a gravi le sommet de l'Atlas, le Mont Toubkal, 4167 mètres quand même, avec ses patients. Et ça a été le début d'une aventure qui nous a permis vraiment de communiquer sur le bénéfice de l'APA. C'est une action qu'on a fait en collaboration avec la Ligue nationale de la sclérose en plaques. Mmh. Et les hommages collatéraux de cette Ligue ont été immédiats, puisqu'ils ont créé une structure qui développe des projets similaires dans les années qui ont suivi. À 3 reprises, avec une 40aine de patients sclérose en plaques du nord et du sud du pays, on a gravi le Mont Ventoux. Mmh. Et il y a 2 ans, on a gravi un sommet dans la vallée de Chamonix. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est pérennisé suite à notre première aventure au Maroc.
Alors justement, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Votre idée, vous l'avez dit Olivier Bouquiot, c'était de communiquer sur le bénéfice de l'activité physique et surtout aussi de montrer une autre image que celle qui est associée à cette pathologie de sclérose en plaques, parce que l'annonce d'un diagnostic, elle est souvent très mal vécue parce que c'est une maladie qui est associée à une perte de mobilité. Est-ce que sur 10 ans, vous avez senti une évolution justement de cette image auprès du public et de la patientèle potentielle ?
L'activité physique en 10 ans, ça a complètement changé. En 2015, il y avait une seule université qui proposait un enseignement de thérapie par l'exercice ou de médecine de l'exercice. Et c'était anecdotique le nombre de structures qui offraient, en dehors en tout cas des institutions hospitalières, de l'APA. Et le gros défi, c'est ça, c'est de rendre accessible au plus grand nombre et de façon démédicalisée cette activité physique, de façon à ce que ce soit plus ludique et que le patient adhère à cette activité et puis au final le fasse en autonomie. Ça, c'est vraiment la mission. 10 ans après, les choses ont complètement changé. Donc, toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles offrent un enseignement APA. Il est même déjà souvent intégré dans les formations de kinésithérapie et d'éducation physique. Les choses ont complètement changé et continuent à changer. La mission de cette ascension en 2011, c'était bien sûr de communiquer sur le bénéfice de l'activité physique, y compris chez ces patients neurologiques, mais aussi de montrer une autre image du patient, et une image du patient qui ne rime pas avec chaise roulante, qui est souvent l'image qu'on a. On pense à handicap et on pense chaise roulante. Alors c'est quelque chose qui n'est plus vrai, parce qu'il y a une évolution aussi des traitements médicamenteux qui ont complètement modifié le pronostic de la sclérose en plaques. Et donc, à l'heure actuelle, avec les traitements, on arrive à mettre une majorité de patients en rémission, entre guillemets, et donc de leur éviter d'aller vers des handicaps plus lourds. Et donc, c'est important de changer l'image, parce que quand on vous annonce un diagnostic de sclérose en plaques, ben forcément, vous pensez à ça et vous vous dites, à quoi bon me démener, à quoi bon, puisque de toute façon, je terminerai en chaise roulante, pourquoi aller courir et gravir des montagnes, ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est vraiment des choses vécues. Donc, dans les patients qui ont gravi le Toubkal, il y avait une patiente qui faisait de l'alpinisme. Son neurologue, à l'époque, lui a dit, écoutez, c'est trop dur pour vous, il faut arrêter. Donc, elle a arrêté pendant plusieurs années et puis elle s'est dit, mais finalement, non, je peux le faire. Mm-hmm. Et en effet, elle a découvert qu'elle était encore tout à fait capable de faire une ascension, ce qu'elle n'imaginait plus du tout. Puis, je pense à une autre patiente qui était professeure d'éducation physique et qui, elle aussi, avait l'image de la chaise roulante quand on lui a annoncé son diagnostic et qui, alors qu'elle était dans un milieu de sportif avec un mari triathlète et elle-même faisait du semi-marathon, ben, elle a arrêté. Mm-hmm. Et puis, suite au sommet, elle s'est dit, si j'arrive au-dessus, ce qu'elle n'imaginait pas, je recommence mon activité de running. Elle est arrivée au-dessus et elle a, 2 ans plus tard, recouru un semi-marathon. Mmh. Donc, l'impact du diagnostic est loin d'être négligeable chez ces patients-là. Il faut continuer à communiquer, je pense, de la sorte.
Alors justement, l'ASBL Fit Your Mind, dont Gauthier Dorban nous avait dit un mot il y a quelques minutes, dont vous êtes le fondateur. On rappelle, l'idée de base, c'est celle d'une approche thérapeutique par l'exercice, physique, collectif et ludique, donc des marches nordiques ou des ateliers de danse, dans le cas concret des patients Parkinson. D'abord, un mot, Olivier Bouquiot, la prévalence de cette pathologie Parkinson dans la population, c'est...
Donc il y a 35 000 patients en Belgique. Mmh. Et au niveau sclérose en plaques, il y a la moitié.
Mmh. En ce qui concerne donc cette thérapie par l'exercice pour les patients Parkinson, il y a d'une part, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, il y a cet aspect prévention, hein, le fait d'avoir une activité précoce, intense, ça retarde l'apparition, ça peut même ralentir le développement de Parkinson. Et puis au niveau de la thérapie, vous avez expliqué cet apport réel de l'exercice physique, parce que pour faire simple, et on le rappelle rapidement, les mouvements lors des exercices, évidemment, ils atténuent la rigidité du corps, qui est l'un des grands signes, l'un des signes principaux, j'imagine, de la maladie de Parkinson. Donc, les mots-clés, c'est une activité volontairement pratiquée, ou en tout cas que les patients aient envie de la pratiquer. Il faut qu'elle soit bien encadrée, absolument, évidemment, par des professionnels, ça tombe sous le sens. Et qu'elle doit, elle soit quand même soutenue, parce que on ne parle pas d'une pratique, même si elle est volontaire, c'est pas une pratique plic-ploc. Il faut que ça soit soutenu, quand même.
Oui, c'est bien démontré dans de nombreuses études. Une fois qu'on commence, il ne faut jamais arrêter, sinon on perd le bénéfice de l'acquis. Et ça doit être suffisamment intense. Évidemment, on s'adapte à la pathologie, on s'adapte aussi au stade de la pathologie. Il y a toutes des précisions à apporter pour la prise en charge. Et ce qui est important dans l'APA, c'est que ça doit être le choix du patient. Donc le point de départ doit être un entretien motivationnel où on explique le bénéfice de recommencer à bouger de façon plus significative. Et ça doit être absolument le choix du patient. Ça conditionne son adhésion au projet sur le long terme. Mmh. C'est vraiment la clé de la réussite de ce projet.
Vous dites, Olivier Bouquiot, que la danse, oui, justement pour les patients Parkinson en particulier, elle permet d'activer, dites-vous, des voies qui court-circuitent en quelque sorte les voies endommagées par la maladie, c'est-à-dire...
Alors, dans la maladie de Parkinson, vous l'avez dit, il y a de la rigidité, il y a aussi de la lenteur, il y a aussi des troubles d'équilibre, des troubles de posture, il y a du tremblement parfois, et il y a des blocages et des difficultés à initier le mouvement. C'est le propre de la maladie. Donc, un des outils de rééducation qui est utilisé dans tous les centres et dans tous les soins de kiné pour ces patients, c'est le principe de l'indissage, c'est-à-dire qu'un stimulus extérieur va remplacer le stimulus interne qui perd à cause de la maladie pour initier de nouveau un mouvement correct, commencer à marcher par exemple. Mm-hmm. Donc l'idée est celle-là. Alors la danse, c'est un outil extraordinaire pour ça. Donc c'est d'abord une vraie activité physique. Si vous avez dansé vous-même, vous savez que vous êtes en sueur après ce type d'exercice. Mais c'est aussi une activité physique qui est intimement liée à de la musique, à du rythme, à de la cadence. Donc il y a un stimulus sensoriel, auditif là, qui est un indissage auditif. Mmh. Il y a aussi un indissage visuel. On peut répéter devant miroir, on peut répéter avec une autre personne. Et donc là aussi, il y a une stimulation visuelle. Et puis, on doit compter les pas. On doit faire des mouvements répétés et on compte soi-même. Là aussi, il y a un indissage cognitif où on stimule son cerveau à rester dans le rythme et à faire le nombre de pas qui convient pour la danse en question. Et donc, c'est par toutes ces voies sensorielles qui sont stimulées et qui remplacent les voies défectueuses liées à la dégénérescence qu'on a dans la Parkinson que le patient peut recommencer à mieux bouger et avoir une harmonie dans ses déplacements quotidiens. Donc, dans les cours de danse, on travaille des types de danse en plus qui sont adaptés aux pathologies et qui vont aider le patient dans son quotidien pour se lever d'une chaise, pour chercher un pot de confiture dans le fond de l'armoire, etc. Il y a aussi une finalité dans nos options de danse.
D'où le nom de ce projet de cours de danse pour les patients Parkinson, avec la référence kinésie à la programmation du mouvement dans le cortex cérébral. Hein. C'est ça l'idée du nom, donc disons.
Oui, oui.
Et filia passion.
Voilà, exactement.
Et il y a un autre élément qui est très 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 important aussi, c'est que sur le plan, on pourrait dire, entre guillemets, psychologique ou social, c'est que les personnes qui ont Parkinson peuvent être gênées par la maladie, en arriver à s'isoler à cause de la maladie, à être réticents aux contacts sociaux. Et donc, cette pratique d'exercice et de danse en groupe les intègre dans des ensembles. Et ça, c'est un élément important aussi dans la thérapie.
Tout à fait. Dans nos cours, ils peuvent venir seuls, ils peuvent venir accompagnés, accompagnés de qui ils veulent. On est vraiment très inclusif dans nos cours. La seule exigence, c'est que pendant le cours, on ne parle pas de la maladie et tout le monde danse. Il n'y a pas de spectateur, tout le monde s'immerge dans l'activité. C'est un moment évidemment où ils oublient leur maladie, il y a des liens qui se créent entre eux, il y a peut-être des nouvelles relations qui se créent aussi avec leurs partenaires habituels, et donc il y a toute une série d'énergie et de communication et de transmission et de liens qui amènent à avoir une vue positive sur sa maladie et développer une envie de vivre finalement. C'est aussi ce qu'on souhaite et ce qu'on essaye de stimuler dans ces groupes.
Il y a une reconnaissance aussi qui doit certainement faire chaud au cœur aux patients qui participent, puisque chaque année vous organisez une journée des danseurs et des danseuses. Vous avez même été accueillis dans l'école de danse Rosas de Anna Teresa de Kersmacher. Et vous avez un partenariat en cours avec la Moza Ballet School qui va s'ouvrir en 2022 à Liège, je pense.
Oui, tout à fait. C'est une aventure extraordinaire. Une école de danse qui va s'ouvrir à Liège l'année prochaine. Une école de danse qui a des ambitions énormes puisqu'elle a le souhait de devenir une des 5 plus grandes écoles de danse internationales. Et dans son projet, il y a une partie non négligeable de son budget qui va être dédiée à des projets danse-thérapie pour toute une série de pathologies et notamment pour les malades avec une maladie de Parkinson. Et donc, ils se sont tournés vers nous pour discuter d'un partenariat et c'est ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une joie immense, un peu une consécration aussi, et j'espère que ça va bien aboutir, parce que c'est un peu comme un auteur qui trouverait son producteur, et je pense et j'espère que ça peut faire des miracles, en tout cas pour toutes les personnes qui participeront à ce projet.
Alors, Olivier Boucquiot, une dernière question. Vous êtes donc à la fois chercheur et praticien. Vous êtes attaché au Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fréture, qui est lui-même attaché au CHU de Liège. Et je pense qu'on pourrait terminer cet entretien avec le souhait de votre part d'évoquer ce qu'on appelle votre découverte du savoir expérientiel du soigné. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, le savoir expérientiel du soigné ou du patient, c'est considérer que parce que le patient a une maladie chronique qu'il connaît, avec laquelle il doit fonctionner, eh bien, il a acquis un savoir et des connaissances qu'il est à peu près seul à connaître. Et que même le médecin, malgré toutes ses compétences, n'est peut-être pas à même d'imaginer complètement. Donc c'est ça, cette idée-là. Et donc ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des pays aussi où on utilise cette ressource du savoir expérientiel des patients et on ne le fait pas beaucoup chez nous. Or, je pense que ça a vraiment un intérêt vraiment important. Ça remet le patient au centre de son soin, finalement. Et ça, c'est très important. Et ça le responsabilise. Ça en fait un soignant, quelque part. Donc la relation s'inverse. Et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Le médicament est une chose, la rééducation une autre, l'activité physique est une porte d'entrée inouïe, mais je pense que aussi tenir compte de leur savoir expérientiel et de leur façon de le communiquer aux soignants comme aux soignés a son importance. Donc du sens et du lien, c'est ce qui est essentiel et c'est finalement ce dont on a tous besoin, quel que soit notre âge, quelle que soit la pathologie, c'est vraiment avoir un sentiment d'exister pour quelque chose, élargir sa base de sustentation, je dirais, pour être mieux stable dans le combat qu'est vivre avec une maladie chronique. En ayant au final l'idée que ce n'est pas la fin de la vie, et pour certains, bien au contraire.
Voilà, et c'est cette idée qui a sous-tendu finalement toute cette émission. Et je vous remercie, Olivier Boucquiot, d'y avoir participé, d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé avec nous ces réflexions sur vos activités et vos recherches. Bien entendu, il y a largement moyen de prolonger cette émission en consultant, je le dis à ceux et celles qui nous écoutent, notre page, Les Éclaireurs, avec les liens vers la SBL Future Mind, vers Kinésiphilia, vers le centre de Fréture et le CHU. Et tout toutes les infos et liens également concernant les recherches en kiné dont nous avons parlé avec notre autre invité Gauthier Dorban en début d'émission. Merci encore à tous les deux d'avoir été des nôtres dans les éclaireurs. Dans un instant, c'est Marc Danval qui sera là. Marc Danval et sa troisième oreille. À bientôt.
Sur la première.